Yes, bonjour à tous, vous allez bien? Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous aujourd'hui. Et bienvenue à vous si vous nous visitez pour la première fois dans ce dimanche découverte. Vous savez, pour les habitués, dimanche découverte égale apéro! Là, il n'y a plus personne qui va écouter le prédicateur. Là. Ils vont juste penser à une chose, l'apéro. Non. Encore une fois, bienvenue à tous ceux et celles qui nous suivent sur Internet. Bienvenue à Benjamin et Keren qui sont de retour parmi nous de New York. Yes! C'est vraiment bon de vous revoir. C'est vraiment bon de pouvoir tous se revoir aujourd'hui. Nous avons un prédicateur invité, Philippe Anchaud, pasteur à l'église de Merin, pasteur depuis de nombreuses années. Vous savez, il y a un moment donné, on ne compte plus. Mais il est arrivé à l'église de Merin en 2017, une année. Il m'a précédé d'une année lorsque j'arrivais ici à Prévesaint. Une personne, un homme que j'apprends à connaître, tranquillement, pas vite, à la Suisse, hein, tranquille. Mais que j'apprécie énormément. Et je sais que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre prêcher, je pense, en 2017, à peu près. Il était venu dans une fin de semaine, un samedi. Et je sais qu'il était énormément apprécié. Et je suis très, très heureux de pouvoir l'avoir avec nous pour apporter le message d'aujourd'hui. Et quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'il faut absolument s'appeler Philippe pour prêcher au CEP? Parce que c'est le quatrième Philippe qui prêche au CEP. Je vous dirais à 98%, depuis que je suis ici, les prédicateurs qui sont venus prêcher s'appellent Philippe. Il faut croire qu'il y a une époque où il devait y avoir peut-être une pénurie dans le choix des prénoms et que Philippe faisait partie des rares choix disponibles pour les familles. Alors voilà, bref, encore une fois, très très heureux d'accueillir Philippe. Je sais que c'est un message qui va vraiment nous toucher. Alors sans plus tarder, on veut pas l'homme, mais est-ce qu'on peut lui exprimer notre reconnaissance? Parce qu'écoutez bien ceci, ça a été avec tout ce que nous vivons, avec le corona par-ci et par-là, un peu plus, et ce matin il n'était pas avec nous, et il a vraiment travaillé fort, lui et son équipe et son église, pour pouvoir le relâcher afin qu'il puisse être avec nous pour prêcher ce matin. Alors, c'est pas pour acclamer l'homme, mais est-ce qu'on peut par applaudissement simplement lui exprimer notre appréciation de l'avoir avec nous aujourd'hui? Merci beaucoup. Philippe, c'est à toi.
Bonjour à chacun, chacune. Vraiment heureux d'être avec vous, de voir quelques visages connus de longue date. Et merci pour votre accueil. C'est vrai que c'était un petit peu chaud, puisque vous savez peut-être, en tout cas en Suisse, des mesures assez drastiques ont été prises. Et puis, on était hors cadre avec ce qui a été prévu. Mais finalement, j'ai le bonheur d'avoir un collègue à temps partiel qui a pris les choses en main pour ce matin, ce qui me permet d'être avec vous et qui me réjouit beaucoup. Merci pour votre accueil. Je vous invite à une lecture biblique. Vous la suivez sur vos smartphones, vos bibles papier, ou vous l'écoutez. Cette lecture, on la trouve dans l'Évangile selon Luc. Et nous lirons au chapitre 11, les versets 1 à 13. Luc 11, les versets 1 à 13. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Jésus leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que chacun reconnaisse qui tu es, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve. » Jésus leur dit encore, « Supposons ceci. L'un d'entre vous a un ami qu'il va trouver chez lui en pleine nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et supposons que l'autre lui réponde de l'intérieur de la maison, « Laisse-moi tranquille. La porte est déjà fermée à clé. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Eh bien, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas par amitié pour les lui donner, il se lèvera pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin parce que son ami insiste sans se gêner. Et moi je vous dis, demandez et vous recevrez.
cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car celui qui demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à qui frappe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils, alors que celui-ci lui demande un poisson ? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf ? Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Voici qu'un homme a deux amis. L'un débarque à l'improviste en pleine nuit et l'autre est couché et ne veut pas être dérangé. Soudé dehors anecdotique, une parabole, Jésus expose là une vision tour à tour déconcertante, solennelle et responsabilisante de la foi. Ce passage est placé chez Luc immédiatement à la suite d'une autre paire. Mais s'il inclut bien la prière, il me semble que son objet est plus large que la prière, que son objet concerne la vie spirituelle dans son ensemble, notre relation à Dieu plus globalement, la foi concrète en somme, la vraie vie, pas la vie rêvée, la vie comme elle est. Et assez rapidement, en lisant ce texte, nous découvrons que l'ami qui est couché, l'ami qui ne veut pas être dérangé, l'ami qui ne veut pas ouvrir sa porte, cet ami, c'est Dieu lui-même. Ouch. Voici une interprétation que je vous propose. La création étant achevée, le Créateur se repose. Il ne veut pas être dérangé. D'où sa porte, verset 7, qui est fermée. La porte de Dieu est fermée. Et de là, pour l'homme, pour la femme, l'impression entêtante, l'impression crucifiante d'être parfois comme abandonné en ce monde, en proie aux circonstances qui nous ballottent. Voici l'homme seul, en un sens. Impression désagréable, hein, mais qui se lit déjà bien avant ce texte de Luc 11. Une impression désagréable de solitude, d'abandon, que l'on trouve en particulier dans les psaumes. Pourquoi dors-tu ? Pourquoi caches-tu ta face ? Psaume 44, verset 24. Psaume 94, verset 7. L'Éternel ne regarde pas, il ne fait pas attention. Ah, c'est dans nos Bibles, hein. Je sais, ça pique, mais c'est là. Ou encore, Job 19, verset 8. Dieu me barre la route. Je ne peux pas passer. Il me fait chercher mon chemin dans l'obscurité. J'aimerais examiner d'un peu plus près, juste quelques instants, cette image de la porte fermée. Il me semble que cette image suggère d'abord que Dieu ferme la porte à notre compréhension de lui-même. Dieu ferme la porte d'abord à notre compréhension automatique de lui-même. Parce que un non-sens, Dieu n'est qu'un mot, après tout, un non-sens. Dieu n'est qu'un mot. Nul ne peut dire précisément tout ce que ce mot, Dieu, recouvre avec exactitude. Cela fait des millénaires que l'esprit humain, aux prises avec l'inconnu, le surprenant, interroge sans parvenir à une solution vraiment satisfaisante. Créateur, éternel, Père, volonté, projet, tout autre, dynamisme. On a à peu près tout essayé dans la théologie, dans le catéchisme chrétien. On a à peu près tout essayé. Et on en revient toujours à ce mot, Dieu, que l'on invoque spontanément, en chuchotant ou en criant à l'heure des plus grandes inquiétudes de la vie, du début à sa fin. Dieu. Il n'y a pas de mot plus surchargé que ce mot-là. Dieu. Combien sont morts, combien ont été tués pour lui. Que n'a-t-on pas fait au nom de Dieu, de l'amour à la guerre. Au cours de l'histoire, ce mot-là, Dieu, a couvert la sainteté et l'injustice, l'héroïsme et les pires cruautés. Aucun mot n'a été plus abusivement invoqué, utilisé, manipulé. Un non-sens, croire en Dieu aujourd'hui plus que jamais, se heurte d'abord à une porte fermée. L'impossibilité de définir de façon exhaustive celui dont on parle et en qui on affirme croire. Voilà, je crois, de quoi nous rendre prudents, modestes, nuancés dans notre expression. Et puis l'image de la porte qui reste fermée me semble suggérer ensuite que Dieu ferme la porte à notre conscience morale. D'abord, il ferme la porte à notre compréhension de lui. Puis, me semble-t-il, il ferme la porte à notre compréhension morale. L'ami importun de la parabole est dans une démarche juste, dans la mesure où cet ami se soucie du bien de son prochain. Versets 5 et 6, il veut à manger pour son prochain. Et le rôle de l'injuste, il est tenu par l'ami qui dort. Le rôle de l'injuste dans la parabole, il est tenu par Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je médite ce passage-là, je me demande avant tout, comment il est possible que Dieu, qui est censé ouvrir le cœur des hommes, puisse ici tenir le sien si serré, indifférent. Pour la conscience morale, le monde dans lequel nous vivons demeure un monde ambigu. Ce monde, il est certes un bel endroit pour vivre, pour fleurir, mais en même temps qu'il est un bel endroit, il est tourmenté par le chaos qui introduisent les affaires humaines. Le monde est semblable à une belle cité en feu, dit un poète juif. Ajoutez-y Dieu et vous aboutissez à une équation qui n'est pas si simple à résoudre. Comment Dieu peut-il exister ? Comment Dieu peut-il être ce qu'il est ? Comment Dieu peut exercer sa souveraineté et être à ce point défié et désobéi par les hommes. Comment peut-il rester sans réagir ? Certes, il y a ceux qui se proclament ses témoins, parmi lesquels nous sommes, mais honnêtement, est-ce que les témoins sont toujours fiables ? L'homme religieux le mieux intentionné peut contribuer à maintenir fermée la porte de Dieu en absolutisant des dogmes, en entretenant de pieuses mythologies, en jugeant à tort et à travers, en cultivant l'entre-soi, en refusant l'ouverture. L'homme religieux peut contribuer à maintenir fermée la porte de Dieu. Il arrive que le chercheur frappe à la porte et soit découragé, dégoûté par l'homme religieux. Il arrive que la bonne intention du témoignage se transforme en contre-témoignage. Dans certains cas, l'homme religieux dérape carrément et devient un danger public. Les abus de pouvoir, les abus sexuels dans l'Église évangélique. Dans certains cas, l'homme religieux dérape carrément et devient un danger public. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en particulier lorsque la foi et le pouvoir sont mélangés. Et je trouve ça très perturbant. Notre société pensait que la question religieuse était réglée, que la question religieuse était enfin en perte de vitesse, que la question religieuse, elle était reléguée dans les sacristies. Depuis longtemps en Europe, on avait cessé de prendre les choses spirituelles trop au sérieux. En plus, voilà que certains fanatiques de tout poil, habités par des certitudes incandescentes, se signalent par des actes d'intolérance et même de violence extrême qui viennent malmener notre sécularité paresseuse. Et voilà que le religieux revient au galop. Jésus donc évoque ce Dieu silencieux et désobéi par ceux-là même qui disent agir pour lui en son nom pour sa gloire. Vous savez, la conclusion logique à ce stade, et j'ai presque terminé, la conclusion logique à ce stade du développement, ce devrait être l'athéisme. Ce devrait être l'athéisme. On a demandé un jour au philosophe athée Friedrich Nietzsche ce qui le rendait à ce point critique envers les chrétiens. Il a répondu ceci: « Je croirais en leur salut s'ils seulement ils ressemblaient un peu plus à des gens qui ont été sauvés. » Puisque Dieu est aux abonnés absents, à quoi bon la foi ? Puisque ceux et celles qui se réclament de lui sont si défaillants, à quoi bon tout ça ? Combien d'excellents esprits ont refusé de croire pour cette seule raison ? Combien d'honnêtes gens se sont découragés devant le défi de la foi ? Il m'arrive là de me demander s'il n'y aurait pas dans l'option de l'athéisme quelque chose du dépit amoureux. L'athée s'adresse à Dieu comme à l'être aimé infidèle. Tu m'as laissé tomber ? Tu n'étais pas là quand je me débattais dans mes difficultés. Tu m'as laissé me débrouiller tout seul, toute seule. Tu n'as pas tenu tes promesses. Tu m'as trompé. Eh bien, en retour, je t'abandonne. Je ne veux plus entendre parler de toi. Je te quitte parce que je suis mieux seul que mal accompagné. Mais précisément, mes amis, précisément, l'accent principal de la parabole, est mis sur la résilience, sur la ténacité, sur la persévérance. La pierre de touche de cette parabole, c'est un éloge de la ténacité. Ne lâchez rien. Dans votre quête de Dieu, dans votre quête de la vérité, ne lâchez rien. Jésus invite ses auditeurs à ne pas se contenter de cette porte fermée. Il demande au contraire qu'ils importunent le dormeur jusqu'à ce que le dormeur se réveille à cause du désagrément causé par leur insistance. Ne pas hésiter donc à se montrer tenace avec Dieu. Voilà qui n'est pas banal. Verset 9, c'est ce que frapper, chercher, demander nous disent. Frapper, chercher, demander, ce sont des remèdes à l'abandon. Continuer à compter avec Dieu quand bien même nous ne l'entendons pas. Quand bien même il ne nous répond pas. Continuer à parler avec Dieu quand bien même il est silencieux. Continuer à chercher Dieu quand bien même il se cache. Croire, par définition, c'est un exercice de ténacité. La ténacité, c'est plus que l'endurance. C'est l'endurance combinée avec l'espoir chevillé à l'âme que ce que nous attendons finira par se produire. La ténacité n'est pas simplement le fait de s'accrocher à quelqu'un ou de s'accrocher à quelque chose. C'est ne pas admettre qu'une promesse ne puisse être tenue, ne pas admettre qu'une promesse ne reste pas sans effet. Il n'est pas admissible que le Christ ne triomphe pas et que ce pourquoi il a tellement lutté ne finisse pas par l'emporter à la fin. Un des efforts les plus difficiles à fournir dans cette vie, c'est l'effort pour attendre que Dieu accomplisse ce que nous espérons. La ténacité, c'est notre part dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Sans en avoir l'air, Jésus expose donc ici une vision très audacieuse de la vocation humaine et plus loin de la vocation chrétienne. La vocation humaine, la vocation chrétienne, être vraiment homme, vraiment femme, ça consiste à attirer Dieu sur la terre. Rien de moins. D'une certaine façon, toutes les valeurs doivent être conquises par l'homme, y compris Dieu lui-même. C'est par notre combat tenace, frapper, chercher, demander, que le ciel et la terre finissent par se toucher. Il ne suffit pas que Dieu soit notre Père qui est aux cieux. Il faut encore qu'il soit incarné par ses enfants qui sont sur terre. Autrement dit, sans notre foi, sans nos actes, Dieu reste en retrait du monde. Dieu n'existe pas sans le relais de celles et ceux qu'il a fait à son image. Dieu semble ne rien faire lui-même, qu'il ne puisse déléguer à ses créatures. Il compte sur nous pour se manifester. Il a besoin qu'on pense à lui, qu'on le réveille, qu'on l'invoque à temps et à contre-temps. Du reste, l'attitude fidèle de l'ami qui dort et qui finit par céder montre que Dieu est implicitement d'accord pour écouter nos appels. Dieu est tacitement dérangeable parce que malgré son peu d'empressement apparent, il reste pour nous, dit ce texte, un ami. C'est d'ailleurs l'unique passage de la prédication de Jésus recueilli dans le Nouveau Testament dans lequel Dieu est désigné comme l'ami de l'homme. À certaines conditions, Jésus peut nous appeler ses amis, Jean 14 à 17, à certaines conditions. Mais là, c'est le seul endroit de toute l'Écriture où Dieu se définit lui-même comme notre ami. Et il le fait quand nous avons l'impression que sa porte est fermée, que nos demandes ne le touchent pas, que nous sommes comme abandonnés dans ce monde. C'est là, à cet endroit, et c'est la seule fois où vous le trouvez dans les Écritures, que Dieu se définit comme notre ami. Un ami fondamentalement bon. Bon. Dans la Genèse, il est répété que Dieu trouva que tout ce qu'il a créé était bon. Il s'agit d'une appréciation que Dieu lui-même porte sur ce qu'il a créé. C'est bon. Dieu étant bon en lui-même, sa création, qui est une émanation de Dieu, est une création bonne. Dieu ne s'est pas trompé en créant le monde et tout ce qu'il contient. A contrario, l'être humain ne peut être dit bon de la même manière parce que l'être humain n'est pas Dieu. Certes, il est une créature de Dieu, il a en lui une capacité de bonté, mais ce n'est qu'une possibilité, parce qu'il est tout aussi capable de la possibilité inverse. Il peut, l'être humain, donner un serpent au lieu d'un poisson, il peut donner un scorpion au lieu d'un œuf, c'est à lui de voir, c'est à lui de se déterminer s'il veut être bon. C'est pourquoi les valeurs et les commandements nous sont adressés. Si l'homme était bon à la manière de Dieu, Dieu n'aurait pas eu besoin de nous adresser ses valeurs et ses commandements. J'en viens à la conclusion, qui constitue à mon sens le couronnement de ce passage de Luc. Le Père céleste, Dieu, donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Voilà qui parle d'exaucement. Il donnera à ceux qui le lui demandent le Saint-Esprit. Voyez donc comment Dieu, notre ami, répond. Il répond à nos attentes en nous donnant le Saint-Esprit. Je sais que nous, chrétiens évangéliques, spontanément, nous jugerons que Dieu nous répond si nos souhaits se réalisent. Le problème, c'est que cette façon de voir les choses, cette façon de concevoir l'exaucement, ça frise la manipulation. Dieu existe s'il me répond. Je me sers de Dieu comme d'un moyen pour réaliser mes vœux. Et la vision chrétienne sombre alors dans la magie. De toute manière, l'expérience ordinaire montre que les choses ne se passent jamais ainsi. Père céleste, donne le Saint-Esprit à celles et ceux qui le lui demandent. Il donne le Saint-Esprit. Rien de moins. Et on ne peut pas faire plus. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une solution clé en main. Il est beaucoup mieux que cela. Il est beaucoup plus que cela. Le Saint-Esprit vient assurer, maintenir et développer notre relation avec Dieu. Le Saint-Esprit vient inspirer la foi et l'action. Il vient soutenir l'engagement et l'espérance. Il est la ressource pour laquelle nous persistons dans la foi, pour laquelle nous nous engageons dans l'action. Il est celui qui nous ouvre à la conscience de notre péché et au besoin intime d'être sauvés, pardonnés et restaurés. Et c'est ainsi que nous parviendrons à créer des solutions, je crois, pour rendre ce monde plus amical, plus accueillant, plus juste. Albert Camus, dans un célèbre discours qu'il a tenu dans un couvent de dominicains à Paris, interpellait ainsi les chrétiens. Et il le faisait dans un contexte particulier. Il voulait que le mal soit diminué dans un monde qui était incandescent. Un monde qui me rappelle celui dans lequel nous vivons en 2020. Un monde incandescent dans lequel Camus voulait que le mal soit diminué. Et il interpelle les chrétiens de la façon suivante. Une phrase. Si vous ne nous aidez pas à le faire, qui d'autre dans le monde le fera ? Nous voulons moins de mal. C'est à nous de retrousser les manches. Puissions-nous être avec simplicité de cœur ces ambassadeurs et ces ambassadrices, amis de Dieu. Amen.